Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait après une guerre qui aura mis l'Europe à feu et à sang, y compris, bien sûr, la Belgique. Aujourd'hui, ces souvenirs sont ravivés par l'actualité et le retour de la guerre sur le continent européen. On analyse tout cela avec Chantal Kestelot, historienne. Elle est, elle aussi, au micro de Blaise van der Linden.
Chantal Kestelot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur les célébrations du 8 mai et leur importance historique. 80 ans maintenant que l'Allemagne a capitulé. Chantal Kestelot, en tant qu'historienne, racontez-nous un peu les quelques jours qui ont suivi et qui ont commencé avant ce 8 mai et leur importance historique.
Alors si on se situe au plan de la Belgique, en fait, force est de constater qu'il y a une série d'autres enjeux qui dominent. Bien sûr, évidemment, tout le monde attend, espère la capitulation de l'Allemagne. On sait que, bon, je veux dire, c'est un événement attendu. Mais le pays est aussi, je dirais, confronté à d'autres difficultés. D'abord, il y a depuis le printemps, le début des retours, les premiers retours, ce sont des prisonniers de guerre qui ont été en captivité pendant 5 ans, les prisonniers de guerre wallons et francophones. Grosso modo, en Allemagne, à ce moment-là, il y a encore environ 300 000 Belges, et donc 300 000 Belges qu'il va falloir rapatrier. Alors, à partir du mois d'avril, il y a aussi le retour, les premiers retours de déportés, et je dirais que c'est relativement important et significatif parce que ça va confronter la population à la réalité de cette déportation politique. Je parle bien de déportation politique, la déportation raciale est complètement invisibilisée, mais le retour de ces déportés politiques va générer aussi une série de nouvelles tensions. Et donc, comme on a connu en septembre 1944, je dirais une première phase de répression populaire où on s'en prend à ceux que l'on considère comme ayant été engagés dans la collaboration, il va de nouveau y avoir des incidents. Et ça inquiète extrêmement fort le gouvernement belge qui essaye de prendre des mesures pour conserver la situation sous contrôle. Autre aspect important de cette période, le pays est traversé par une vague de grève dans le secteur des mines. Il faut savoir que la production de charbon, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. On est encore loin d'avoir retrouvé la production telle qu'elle se présentait avant la Première Guerre mondiale. On a besoin du charbon dans l'industrie et donc il y a une mobilisation des mineurs et ces mineurs protestent aussi contre cette mobilisation qui les empêche de quitter leur travail, qui les soumet à une série de dispositions extrêmement contraignantes. Troisième aspect qui va beaucoup secouer la Belgique, c'est la question de Léopold III. Léopold III qui est encore toujours en captivité et la fin de la guerre, là aussi, signifie la libération de Léopold III. Et donc, je le disais, il y a ces aspects-là qui vont peser. Il y a bien évidemment l'aspect, la dimension militaire. Alors, il y a des sujets dont on ne parle pas. On ne parle absolument pas de la déportation raciale. Donc, toutes les missions de rapatriement de ces Belges qui sont à l'étranger ne concernent absolument pas les Juifs qui ont été déportés en territoire polonais, dont on ne parle absolument pas dans la presse, si ce n'est quelques petits entrefilets. Et là, c'est assez singulier. J'ai trouvé deux petits entrefilets, un dans Oud-Laatste-Nieuws et un dans un journal francophone, La Libre Belgique, où on donne des chiffres. Et ces chiffres ne sont pas corrects, mais ils donnent une idée de l'ordre de grandeur, mais ils ne sont absolument pas l'objet de commentaires. C'est une information qui ne percole pas, si je puis dire.
Alors, le déclin brutal de l'Allemagne commence le 2 mai avec la défaite de la bataille de Berlin. C'est quelque chose auquel on s'attendait, cette capitulation allemande, le 8 mai à 23h01.
Alors, on ne s'attend pas à un timing précis, mais effectivement, je dirais, passer la dernière offensive, l'offensive des Ardennes, à partir de ce moment-là, l'Allemagne est clairement en train de reculer. À partir du printemps, les armées occidentales vont petit à petit pénétrer sur le territoire allemand. Du côté de l'Est, on a les armées soviétiques qui avancent. Le 30 avril, Hitler va se suicider. Donc, je dirais, il y a une série, on sent bien que l'Allemagne est à bout de souffle, qu'elle ne peut plus gagner la guerre. Donc la question, c'est quand est-ce qu'elle va effectivement capituler. Donc on est véritablement là, une question de jour, une question d'heure. Ça explique aussi, bien sûr, le 8 mai, les gens font la fête, mais la fête n'a pas le même goût que ce qu'elle a pu avoir en septembre 1944, lorsque les Allemands sont symboliquement partis, enfin plus que symboliquement, sont effectivement partis. Là, les Allemands ne sont plus sur le territoire belge pour certaines régions depuis bientôt 8 mois, et pour d'autres un peu moins si on prend en compte la région des Ardennes. Donc effectivement, je dirais, on sait que ça va arriver. La question, c'est à quel moment cette capitulation va effectivement intervenir.
Justement, vous le mentionnez, cette date du 8 mai, elle a un certain goût amer quand même en Belgique, non ?
Alors, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la même légèreté, hein, si vous me permettez ce mot, qu'ont pu avoir la libération du mois de septembre. Il y a toute une série, on se rend compte aussi, la guerre s'est poursuivie, les difficultés matérielles sont toujours là, le ravitaillement pose toujours problème, et il y a toutes ces personnes qui ne sont plus là, qui ne sont pas encore rentrées, dont on est sans nouvelles, effectivement, et c'est d'autant plus préoccupant qu'on sait à ce moment-là que l'Allemagne est confrontée à des opérations militaires. Donc pour ceux qui ont quelqu'un de leur famille qui a été envoyé en Allemagne dans le cadre du travail obligatoire, il y a tous les bombardements qui ont été faits par les Alliés. Donc je dirais la situation est extrêmement préoccupante. On attend des nouvelles, et des nouvelles qui pour certains vont effectivement arriver et qui seront positives, et qui pour d'autres par contre seront malheureusement extrêmement négatives. Il y a tous ceux dont on est absolument sans nouvelles, qu'il s'agisse à la fois des déportés raciaux, mais aussi de tous ces prisonniers politiques qui se sont vus attribuer le statut de Nacht und Nebel, nuit et brouillard, et pour lesquels les familles n'ont absolument aucune nouvelle, aucune information. Et donc, cette attente, elle est véritablement insoutenable. Et je dirais que parfois, les conditions du retour posent effectivement problème. On prend par exemple des familles qui attendent à l'aérodrome militaire d'Evere, et voit débarquer des travailleurs volontaires qui ont été rapatriés trop rapidement, presque par erreur, alors qu'ils attendent des déportés. Donc on imagine le choc que ça a dû être. Pendant 3 jours, des gens vont, poireauter à cet aéroport, parce que pendant 3 jours, on leur annonce qu'il y a plusieurs avions qui vont revenir du camp de Buchenwald, et ce n'est qu'au bout de 3 jours que les avions arriveront. Donc on imagine assez l'angoisse, le stress, la détresse des familles qui sont dans l'attente, sans compter tous ceux qui ne rentreront pas.
Alors, souvent, l'actualité rattrape l'histoire. On a l'impression qu'en France, enfin, je pense que c'est le cas, le 8 mai est bien plus célébré qu'en Belgique. Par exemple, nos voisins français ont un jour férié le 8 mai. Comment l'expliquer que pour eux, c'est plus important que pour nous ?
Alors, comment l'expliquer ? Je crois qu'il y a eu une volonté très forte, je dirais, des gouvernements successifs de s'emparer de cette date du 8 mai. C'est aussi, je dirais, les conditions de sortie de guerre, avec le général de Gaulle qui apparaît comme un des vainqueurs clés. Tandis que la Belgique, je dirais, son rôle dans cette victoire, il est somme toute relativement limité. Il y a bien sûr évidemment eu tous les volontaires belges qui seront combattus aux côtés des armées alliées dans les années de fin de guerre, mais force est de constater que le 8 mai n'a jamais eu cette capacité de mobilisation qu'il a pu avoir du côté français. Alors pendant longtemps, il a eu un statut un peu hybride, hein, certaines écoles, certaines administrations étaient effectivement fermées. En 1974, le gouvernement a décidé de supprimer le 8 mai, et en 1983, quand on a officialisé la liste des jours fériés, le 8 mai avait purement et simplement disparu. Là où du côté français, la tentative, hein, il a été supprimé par Valéry Giscard d'Estaing, et justement il y a eu toutes ces questions, ces débats, il a été réintroduit au moment de l'arrivée de François Mitterrand, et donc je dirais il y a eu une volonté de se réapproprier le 8 mai. Ici, progressivement, il est tombé dans l'oubli, et ce n'est que assez récemment que de nouveau des voix se sont fait entendre pour que le 8 mai soit restauré comme jour férié. Mais même aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'objet d'un débat politique profond, hein, que certains à droite et du côté de l'ANV en particulier ne veulent pas en entendre parler, là où certains du côté, je dirais, des courants les plus progressistes seraient assez favorables à cette réintroduction. Mais donc, encore une fois, c'est un sujet qui semble être un sujet de division dans le contexte de la Belgique.
Pour terminer, toujours pour rebondir sur l'actualité, Moscou est sur le qui-vive avant le 9 mai. La Russie, elle, célèbre cette capitulation de l'Allemagne le 9 mai, car à 23h01 heure européenne, on était déjà le 9 mai du côté russe. On a l'impression également que cette date est extrêmement symbolique pour les Russes. On a vu Vladimir Poutine qui a annoncé un cessez-le-feu de trois jours, pour commémorer ce 9 mai.
Alors oui, effectivement, mais pour l'Union soviétique, ça a été véritablement un enjeu tout à fait majeur. Hein. Il faut savoir que le nombre de victimes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale est absolument phénoménal, hein, si on compare au nombre de victimes sur le front occidental. Et je dirais que pour l'Union soviétique, qui s'est en quelque sorte complètement investie dans cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et ça a commencé, je dirais, par le fait de vouloir aussi avoir sa date de capitulation à elle, hein, de ne pas se contenter de la capitulation de Reims qui avait été conclue le 7 mai avec une entrée en vigueur le 8 mai. Il a fallu avoir une date qui soit spécifique, et je dirais là où transcende un peu on transcende les périodes et les régimes, hein, du communisme à la Russie de Poutine, la célébration du 9 mai 1945 est véritablement le moment clé, puisqu'au fond, l'Union soviétique considère que l'Occident a dépossédé en quelque sorte ce rôle de l'Union soviétique. Hein. Effectivement, à travers la guerre froide, on a surtout souligné le rôle emblématique joué par les Américains. Et aujourd'hui, du côté de la Russie de Poutine, il y a un surinvestissement dans cette date clé et qui sert effectivement à d'autres fins. On sait combien aujourd'hui l'héritage de la Seconde Guerre mondiale est utilisé à des fins propagandistes, combien il y a une volonté de réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale du côté russe. Et je dirais que cette réécriture, évidemment, elle a un lourd passif, puisque elle prend ses racines dans la période communiste.
Chantal Kestelot, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
À bientôt. Merci. Au revoir.